parler finances, dettes, bourses et marchés.
Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir ou plutôt rebonsoir, bienvenue dans le débat de ce soir. Dégringolade des prix du pétrole, ralentissement de l'économie chinoise, atterrissage des émergents, incertitude sur la croissance aux États-Unis, en Europe, troubles géopolitiques au Proche-Orient. Les motifs sont nombreux pour expliquer la baisse des cours sur les places boursières, même si, avouons-le, les bourses ont repris du poil de la bête. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, quelques chiffres. Le CAC 40 à Paris a perdu 10%, le Dow Jones 7%. Et puis, signe supplémentaire, vous me direz si vous êtes d'accord avec nous, de la nervosité ambiante, le cours de l'or, un refuge traditionnel en période de déprime, a retrouvé des couleurs depuis quelques mois, progressant de plus de 10% depuis le début de l'année. Alors après la crise des subprimes en 2008, puis des dettes souveraines en 2011, faut-il craindre un nouveau krach bancaire boursier? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio deux invités. Yamina Tadjedid, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'Université Paris-Ouest La Défense. Vous êtes membre du laboratoire économique et puis co-auteur d'un livre qui sort ces jours-ci, La fabrique de la finance aux éditions Septentrion, aux presses universitaires. Deuxième invité, Jean-Paul Paulin, qu'on entend parfois sur RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur d'économie à l'Université d'Orléans et membre du Cercle des économistes. Je cite une de vos publications, un article « Les marchés financiers sont-ils rationnels ?» Alors, je voudrais qu'on commence par analyser ce qui se passe dans le secteur boursier avant d'en venir aux autres conséquences, éventuellement bancaires. Yamina Tadjedine, quel est le regard que vous portez sur ce qui se passe sur les places boursières un peu partout dans le monde, qui sont quand même à la baisse, je le disais, depuis ces dernières semaine.
Alors pour comprendre ce qui se passe, il faut concevoir que les mouvements actuels découlent directement de la crise de 2007-2008 en fait, et du fait que pour résoudre cette crise-là, on a dû apporter énormément d'argent, notamment par les banques centrales, que ce soit européenne ou la Fed. Donc ce qui fait qu'il y a des masses de liquidités qui circulent sur les marchés financiers et qui recherchent des rendements intéressants mais aussi sécures. Et donc résultat, eh bien, ils vont avoir tendance à être placé là où on estime que les placements sont liquides et sécures, à savoir les grandes capitalisations, notamment sur le CAC 40 ou le Dow Jones, et aussi sur certaines classes émergentes qu'on estimait relativement sûres et liquides.
En Asie par exemple ?
En Asie par exemple, mais on en a vu aussi au Brésil. Et on le voit aussi, alors ça concerne les actions, mais ça concerne aussi les obligations, où on voit que, eh bien, vous avez un certain nombre d'investisseurs qui sont très friands d'obligations d'État.
Donc là, ce que vous nous dites, c'est beaucoup d'argent qui circule, mais alors pourquoi une si grande volatilité et pourquoi une tendance à la baisse ces dernières semaines ?
Eh bien, il y a une grande fébrilité des marchés financiers qui tient à ce que, finalement, on a observé une hausse assez importante ces dernières années, d'une certaine façon assez paradoxale, même on peut dire sur le CAC 40, parce qu'on ne peut pas dire derrière que cela a été nécessairement justifié par des fondamentaux économiques qui étaient tout autant en croissance, mais c'était alimenté par justement ces apports de capitaux qui permettaient de créer ce mouvement à la hausse. Mais dès que vous commencez à avoir un petit peu de doute, ou vous posez des questions sur l'avenir de la Chine, ou même de ce qui se passe en France ou en Europe...
Les facteurs que je mentionnais... La dégringolade des prix du pétrole, le ralentissement chinois, le ralentissement des émergents avec la Russie par exemple qui est dans le rouge ou le Brésil, ça c'est important et ça explique cette fébrilité des investisseurs.
Exactement. Donc...
Jean-Paul Paulin, peut-être une réaction, est-ce que vous partagez la même analyse ou bien quelle est la vôtre sur ce qui se passe ces semaines sur le marché boursier ?
Ben écoutez, c'est vrai qu'il y a un an à peu près à cette époque-ci, on était revenu au niveau de 5100, 5200 sur le CAC 40. Mais en fait, toutes les bourses étaient un peu dans cet état d'esprit. Toutes les bourses avaient récupéré du plongeon de la crise financière.
Alors peut-être juste aujourd'hui, le CAC 40 est un petit peu au-dessus de 4000, si je ne me trompe pas.
Il est à 4200, en effet. Donc il y a bien eu, en effet, une dégringolade qui a d'ailleurs touché tous les marchés. Donc, effectivement, dire il y a de la volatilité, il y a de la liquidité qui circule et qui est susceptible de se placer à droite à gauche. Bon, là, il se trouve que c'est une baisse conjointe. Bon, alors 5002, c'était probablement une surévaluation par rapport, en effet, aux fondamentaux, par rapport, vous savez, les analystes financiers calculent ce qu'ils appellent les prix par rapport, le prix des actions par rapport aux revenus, hein, le PER. Et bon. Et donc, on était revenu sur des niveaux qui étaient sans doute un peu excessifs. Bon. Là-dessus, il y a eu un certain nombre de mauvaises nouvelles, en effet, un peu la Chine, en effet, les États-Unis qui redémarrent pas aussi, vite et bien qu'on le pensait. Le pétrole, ça nous avait été présenté dans un premier temps comme une très bonne nouvelle. Voici que maintenant, c'est une mauvaise nouvelle. Bon.
On a d'ailleurs eu une émission la semaine dernière sur le pétrole, okay. Sur RFI.
Donc, en réalité, c'est vrai que les marchés font des bulles. Il est rare que les marchés procèdent à des ajustements dans le calme. Et ceci pour de bonnes raisons, d'ailleurs. La première étant que, vous savez, avec cette volatilité, il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui gagnent même beaucoup d'argent. Et que, on me disait d'ailleurs il y a quelques heures, en réalité, cette volatilité, elle a été organisée. Parce que sur les marchés d'actions comme d'obligations, eh bien, plus il y a de volatilité, plus les traders, plus les banques de financement et d'investissement gagnent de l'argent. Donc ça peut être organisé.
Donc si je comprends bien, vous nous dites on n'est pas sur une vraie tendance à la baisse, on est plutôt sur un ajustement par rapport à une précédente surévaluation des cours boursiers.
Oui, les cours boursiers s'enroulent autour de fondamentaux. Il se trouve qu'ils ont surévalué pendant un certain temps, qu'aujourd'hui ça revient en arrière, qu'aujourd'hui on ajuste à la baisse. Je ne crois pas pour autant qu'il y ait pour le moment conditions d'un nouveau crack boursier.
Alors, votre réaction et votre analyse, Yamina Tadjedine, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude du côté de Jean-Paul Paulin. Est-ce que vous parleriez de risque de crack boursier ?
Alors moi, je vais jouer un peu les Cassandres sur ce coup, à savoir que je pense qu'on a quelque chose d'assez profond hein, qui est en train de se tramer et qui vient, alors je vais reprendre un peu une lecture d'Aglietta hein, sur la période contemporaine, où on a eu un certain régime d'accumulation qui s'est installé avec en son cœur la finance, les banques, le crédit. Et bien c'est ce régime-là qui a permis la croissance qu'on a observée depuis les années 70-80, aussi bien dans les pays développés, aux États-Unis, que dans les pays émergents. Et me semble-t-il, je pense qu'on est arrivé au terme de ce régime d'accumulation.
C'est la fin d'un cycle.
C'est la fin d'un cycle qui était un cycle qui impliquait un certain nombre d'organisations, d'institutions, de relations économiques, politique et monétaire. Et finalement, pour moi, les soubresauts que l'on a aujourd'hui, eh bien, s'inscrivent hein, totalement en continuité de ce qui se passe depuis 2007 et qui marque probablement la nécessité de changer l'organisation plus globale de nos relations économiques.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le Fonds monétaire international a revu à la baisse il y a quelques jours ou quelques semaines ses prévisions de croissance. Alors d'abord pour 2016, on est un peu plus de 2,5% je crois, et pour 2017 dans les mêmes eaux. Jean-Paul Paulin, quand Yamina Tadjedine nous dit fin d'un cycle, est-ce que vous êtes d'accord ou non?
Ce qui se passe surtout, parce que j'ai pas nécessairement l'analyse de Yamina, ce qui se passe surtout, c'est que, en effet, on se demande aujourd'hui si la croissance partout dans le monde, enfin dans une grande partie du monde, est-ce que la croissance n'est pas très durablement en panne, puisque vous savez, on parle de ces stagnations séculaires, on parle de oui la fin de la croissance, etc. Et certains d'ailleurs trouvent ça très bien. Bon, c'est vrai que on peut se dire que il y a quelque chose de changé dans le fonctionnement de l'économie mondiale, avec des taux de croissance qui seront durablement plus faibles. Je ne crois pas forcément à cette thèse. Je pense que ce qui se passe, c'est d'abord qu'il y a eu toute une série de chocs macroéconomiques et d'erreurs de politique macroéconomique très importantes. C'est vrai aussi que cette crise financière en effet a changé pas mal de choses. C'est vrai que ce qu'on nous a annoncé comme la troisième révolution industrielle, ça met du temps à se propager. Ça, on prend du temps pour, avant d'en voir réellement les retombées. Mais sur le fond, je crois en effet qu'il y a un potentiel de croissance à venir qu'on sous-estime peut-être, et que sous-estiment peut-être les bourses.
Faut-il craindre un nouveau krach boursier, une nouvelle crise mondiale? C'est le débat de ce soir sur RFI avec nos deux invités, Yamina Tajeddine, Jean-Paul Paulin. Yamina Tajeddine, je voudrais qu'on en vienne aux conséquences pour le secteur bancaire de ce qui se passe aujourd'hui sur les places boursières. Alors, petite indication, les titres des banques sont ceux qui souffrent le plus de cette crise boursière, avec des cours qui ont baissé de plus de 10% pour certaines banques. On a beaucoup parlé de la Deutsche Bank, je crois. Alors, est-ce que la contagion bancaire est-elle possible?
Alors, on n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2007-2008, et particulièrement 2008 en ce qui concerne les banques, à savoir que les banques ont quand même consolidé leurs fonds propres et globalement, alors attention, elles continuent à avoir des activités spéculatives, à intervenir sur les marchés dérivés, mais on a quand même
eu une sécurisation.
Elles prennent
moins de risques?
Elles ont augmenté, je dirais, alors par la réglementation, mais aussi de façon volontaire, leur niveau de fonds propres qui, globalement, permet de sécuriser leur position.
Pour faire face à une grosse perte en cas de placement raté, elles peuvent rembourser ceux qui revendraient des actions.
Voilà. Donc,
j'essaie d'être concrète.
Voilà, exactement. Donc le citoyen n'aura pas à débourser, tout au moins, voilà. Pour les banques françaises, on peut l'espérer. Pour la Deutsche Bank, bon, peut-être que c'est un peu plus questionné, mais globalement, l'État français n'aura pas de nouveau à débourser des sommes colossales pour enflouer les banques.
Donc elles sont plus sécures, c'est ce que vous nous dites, mais pour autant, est-ce qu'il peut y avoir contagion?
Je ne pense pas actuellement qu'il puisse y avoir contagion. On va dire que malgré tout, la confiance a été rétablie entre les banques, elles se refont des prêts entre elles. Il y a quand même eu des progrès dans la réglementation, même si on peut estimer que ça n'a pas été accompli autant qu'on l'espérait. Je ne pense pas qu'on ait cette crainte et que cette crainte soit justifiée.
Alors Jean-Paul Paulin, je crois que là vous avez une divergence puisque vous avez signé aujourd'hui dans Les Échos un article qui s'appelle « Pourquoi les marchés font vaciller les banques ?» Donc pour vous, contagion bancaire possible.
Oui, oui, oui. C'est vrai que sur ce point, je suis plus pessimiste pour le coup que Yamina. Parce que en effet, c'est vrai que les banques sont aujourd'hui mieux capitalisées, sont plus sûrs aussi du point de vue de la liquidité. Par contre, ce qu'on n'a pas changé, c'est que, en effet, les banques sont toujours aussi interconnectées les unes aux autres parce que on a refusé très clairement de séparer leurs activités, j'allais dire leurs activités utiles et leurs activités traditionnelles, c'est-à-dire le crédit et la gestion des moyens de paiement, des activités de marché qui, elles, supposent des rapports, des relations entre les banques qui sont extrêmement fortes. Et ça, c'est effectivement un vecteur, un facteur de contagion possible, dans la mesure où si une banque a une difficulté, ceci peut, par des canaux divers, variés, nombreux, se transmettre à d'autres banques et se transmettre en amplifiant les chocs. D'ailleurs, si je regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, vous observerez qu'il y avait une corrélation très forte entre les cours des différentes banques, alors que au bout du compte, elles sont assez différentes les unes des autres. Il a suffi que la Société Générale annonce un résultat décevant, pas un mauvais résultat, un résultat décevant par rapport aux anticipations des analystes pour que ceci fasse tomber le Crédit Agricole ou un peu la BNP. C'est quand même tout à fait étonnant. Et ceci ne peut s'expliquer, en effet, que par ces phénomènes de contagion.
Alors Yamina Tajeddine, je voudrais revenir sur quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais j'ai peut-être mal compris. Vous étiez plutôt pessimiste sur le krach boursier, vous ne l'êtes pas sur la contagion bancaire. Alors, qu'est-ce qu'il explique?
En fait, je pense qu'en fait, effectivement, les banques sont au cœur de ce système et particulièrement de ce qu'on appelle le shadow banking, donc qui est des systèmes de financement opaque qui lient le système financier et le système bancaire. Mais je pense qu'il y a...
Des systèmes illégaux?
Non, non.
Non,
pas nécessairement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une certaine flexibilité.
Disons non régulée.
Voilà, une certaine flexibilité qui est permise sur les marchés financiers. On peut avoir des contrats de gré à gré qui ne sont pas réglementés. Mais je pense que, dorénavant, on a quelque chose alors qui dépasse les banques et qui, par exemple, concerne les assurances, la question des retraites. Alors, c'est moins présent en France, mais vous avez beaucoup de soucis à ces niveaux-là pour des retraites dans tous les pays qui ont fait la retraite par répartition, où cette volatilité observée sur les marchés financiers et qui va perdurer et qui augure, de mon point de vue, d'une baisse vraisemblable des rendements financiers dans le futur, eh bien montre un certain nombre de problèmes très importants. Hein, parce que quand vous avez, par exemple, dans les assurances ou les retraites, un portefeuille qui est surtout composé d'obligations d'État où vous avez des taux qui sont très très faibles actuellement, eh bien on voit bien que la valorisation de ces portefeuilles ne permettra pas de payer les retraites. Et là, je pense que, pour moi, mon inquiétude, elle vient plutôt de ces autres aspects induits par ce mouvement financier.
Donc ce que vous soulignez, c'est un risque de contagion à l'économie plus réelle, finalement. Jean-Paul Paulin, sur l'économie réelle, quel pourrait être concrètement l'impact là de ce qui se passe sur les marchés boursiers que tout à chacun ne ressent pas? Est-ce que ça pourra se ressentir pour n'importe quel citoyen du monde?
Écoutez, une crise financière n'est grave que lorsqu'elle touche au cœur du système, c'est-à-dire au cœur des banques et au cœur de leurs activités traditionnelles dont je parlais, c'est-à-dire au fond la production de crédit et la gestion des moyens de paiement. Les fluctuations de marché, quand on regarde sur le passé, les fluctuations des marchés sont pas si importantes que ça pour l'économie réelle. Juste un point, peut-être que les jeunes dont vous faites partie évidemment n'ont pas de souvenir. Le crack de 87 était un crack extrêmement important. Vraiment, on voyait dégringoler le Dow Jones là. Eh bien, et tout le monde, et nous sommes tous partis en conférence pour dire, c'est clair que ça va avoir un choc extrêmement important sur l'économie réelle, parce que il y a je ne sais plus combien de milliards, de milliers de milliards qui s'étaient évaporés en fumée, disait-on, du jour au lendemain. En réalité, la fin des années 80 a été a connu une conjoncture qui était très brillante. C'est dire que, en réalité, on peut avoir des fluctuations boursières et ça change pas grand chose. Mais ce qui s'est passé lors de la crise de 29, comme lors de la crise que nous venons de vivre et que nous continuons malheureusement à vivre, c'est que les banques, la fonction essentielle des banques a été touchée au cœur.
Je vois que vous voulez réagir, Yamina Tadjedine.
Oui, parce que en fait, je pense que là, il y a, Monsieur Paulin signale un point clé, c'est finalement le contexte dans lequel se situe ce krach boursier impliquer des conséquences différentes sur la société dans sa totalité. Et alors moi, là où je ne suis pas d'accord avec Monsieur Paulin, c'est que je pense que cette crise-là, qui est un épiphénomène, là, le krach que l'on a ces jours-ci, n'est pas quelque chose d'important. Mais par contre, je pense que de manière profonde, on est obligé de se questionner sur cette financiarisation et aussi, parce que je pense que c'est un problème qui est lié à la question des niveaux d'endettement, parce que typiquement ce qui se passe actuellement en Chine, c'est le problème d'un endettement très fort des entreprises. On retrouve la même chose dans différents pays. Et là, pour le coup, on a des choses qui sont profondément...
Mot pour terminer, parce qu'il nous reste quelques secondes, précisément sur la situation chinoise, quelle pourrait être une mesure à prendre qui permettrait d'éviter ou de confiner un début de crise?
La situation chinoise est tout à fait particulière parce que l'État est très présent. Et donc, en fait, il peut agir sur l'économie d'un point de vue politique.
Et il pourrait faire quoi?
Eh bien, il peut très bien nationaliser les banques ou décider, par exemple, des séparations, comme le propose M. Paulin.
Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, peut-être une nationalisation des banques chinoises. Merci beaucoup à nos deux invités d'être venus dans le studio de RFI. Yamina Tadjedine, maître de conférence en sciences économiques à l'université Paris-Ouest-Nanterre La Défense. Jean-Paul Paulin, économiste, professeur d'économie à l'université d'Orléans et membre du Cercle des économistes. Merci également à Florence Ponce, à Hélène Avril. On se retrouve demain pour un nouveau débat. En attendant, c'est le journal en français facile avec Edmond Sadaka.